Cacao Cast, épisode 278. Nous sommes le mercredi 1er mai 2024. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
Ah, ça sent les vacances, Philippe.
Ça sent les vacances pour certains petits vénards, ouais, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. On prend des vacances. C'est l'avantage d'avoir les enfants qui sont tous partis de la maison. On peut prendre nos vacances à un moment qui n'est pas nécessairement le moment de tout le monde. Alors, je me prévois un été avec des petites vacances un peu partout, mais je prévois surtout relaxer cet été. Et pour ce qui est de faire des grands voyages, on fait ça au mois de mai.
Donc... C'est une bonne idée, hein. C'est avant la haute saison, il y a moins de monde peut-être, le temps est clément déjà au mois de mai.
Mais nous ce qu'on voulait surtout faire, c'est qu'on voulait aller un festival de fibres textiles qui s'appelle le Sheep and Wool Festival du Maryland. Donc c'était un petit peu de route, mais c'est au mois de mai et on n'était jamais allé c'est toujours intéressant d'aller voir dans ces festivals-là qu'est-ce qui se passe au niveau de... C'est quoi les nouveautés au niveau de la laine, des fibres textiles, puis moi j'aime beaucoup regarder les animaux, comment ils tondent les moutons, les chiens, comment ils sont dressés, comment ils ont beaucoup d'instincts, puis des choses comme ça. J'en ai déjà parlé, je pense, dans le podcast pour d'autres festivals, mais là c'en est un nouveau, puis on a hâte d'y aller.
Ok, c'est assez spécialisé, je pense, mais ça a l'air vraiment intéressant, hein, j'imagine que...
C'est spécialisé, mais c'est aussi, il y a beaucoup de monde, là. C'est juste parce que c'est pas peut-être dans les cordes de notre auditoire habituel, c'est pas très techno dans ce sens-là, mais c'est très, très... Il y en a beaucoup des festivals comme ça, c'est juste que celui-là, on n'était pas allé encore.
Ok, ben tu nous raconteras ça, ça quand tu seras de retour, peut-être plus tard au mois de mai ou début juin, on verra.
Ce qui est chouette avec le tricot, c'est que mon épouse peut en faire pendant que moi je conduis, et puis quand on arrive à destination, ben elle a fait quelque chose, et des fois j'ai une paire de bas ou des choses comme ça, alors c'est toujours intéressant.
Ah, c'est génial, oui, c'est génial. Ouais, si jamais il fait un peu plus frais, peut-être, je sais pas, on verra.
Voilà, c'est ça.
Pour les nuits fraîches. Oui. Bon, j'imagine que tu seras... en déplacement le 7 mai, c'est ça?
Oui, c'est ça.
En vacances?
On va être près de Washington. Alors, qui sait, on est supposé visiter Washington cette journée-là. Peut-être que je vais entrer dans un Apple Store à Washington pour aller voir l'événement. Ça serait pas trop mal. Parce que c'est à 7h le matin, c'est à 10h le matin, heure de l'Est. Donc, pourquoi pas aller faire un petit tour dans un Apple Store?
Ouais, je serais curieux de savoir si il visionne les keynotes dans les Apple Store en direct.
Ouais, c'est ça, peut-être. Moi aussi. Surtout que celui-là, c'est sûrement un truc, c'est comme d'habitude, c'est un truc préenregistré parce que là, ils mettent ça à 7h du matin en Californie. Je suis sûr que Tim Cook fait pas des présentations live à 7h le matin.
C'est ça. Donc voilà, si vous demandez de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe le 7 mai, bien sûr, Apple a annoncé un événement le 7 mai. On s'attend fortement à l'introduction de nouveaux iPads. Ça devrait tomber, là. Ça devrait coïncider au niveau des dates. Et puis, l'historique d'Apple qui annonce les iPads au printemps. Donc voilà, on va suivre ça de près. Donc, comme tu seras en vacances, Philippe, on ne fera pas d'épisode cette semaine-là. On fera plus tard, après ton retour.
Ça sera notre épisode où on commencera, où on parlera peut-être un petit peu de la WWDC aussi, puis de ce qui s'en vient.
Aussi. Donc voilà, il n'y a pas trop de secrets parce que l'invitation dit « pencil me in ». Ouais. Pour traduire ça, c'est, on dirait quoi
À inscrire dans le calendrier.
Inscrivez-moi, c'est ça, voilà, ouais. C'est au stylo. Donc voilà, c'est sûr qu'il y aura de l'iPad, il y aura le stylo Apple, comment il s'appelle déjà,
le crayon,
le pencil, là,
le crayon, oui, c'est ça.
Il y a des rumeurs de crayons qui supporteraient les différentes pressions, etc., comme les crayons professionnels là qu'on voit sur les tables Wacom haut de gamme et ce genre de choses. On verra bien, c'est sûr que ça fait un bout de temps, je pense, que le Pencil version 2 est sorti, donc ça ne sera pas trop tôt.
Mais il manque encore le crayon version 1. Là.
Version 1, ouais, c'est ça. Donc peut-être que lui, hop, il va être au rencard un petit peu, là, c'est cette horreur qui ne devrait pas exister, avec cette petite prise Lightning au bout, là, qu'il faut brancher.
Ah, moi, je trouve ça un peu charmant, quand même. Là. C'est pas si
ouais, c'est un peu bizarre, quand même. Le deuxième est quand même pas mal. Magnétique, pof, oui. tu le colles là sur le
côté de ton iPad. Et la charge à induction, c'est quand même bien.
C'est bien mieux. Donc voilà, on parle de peut-être écran OLED, mais c'est pas sûr. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des rumeurs de M4, donc de l'Apple Silicon M4. Alors c'est un peu étonnant parce que le M3 est sorti il y a moins d'un an. Qu'Apple se mette un M4 dans un iPad aussi rapidement. Mais bon, les rumeurs sont insistantes. Alors je ne sais pas, on verra bien. Donc ça serait un petit peu étonnant quand même. Hein. Le M3 est basé, je crois, sur le A17 Pro qu'il y a dans les iPhone 15 Pro. Que ce soit l'iPad qui est le M4 qui serait l'équivalent du A18 quelque chose qui sortirait seulement en septembre avec les nouveaux iPhones. Bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une raison, hein, qui sait? Peut-être qu'il y a plein d'intelligence artificielle là-dedans, donc il faut le M4 qui a un sous-système d'apprentissage profond, super élaboré, qui n'existe pas encore sur le A17 Pro / M3. Qui sait, ça pourrait être ce genre de truc, on ne sait jamais. Donc voilà, on verra bien ce qui sort. Je pense que bon, ça sera intéressant. Les iPads se vendent encore. Hein, dans les... Je n'ai pas regardé en détail les résultats.
Les chiffres d'app... de vente, ouais, c'est ça.
Ouais, les derniers, là, mais je pense que c'est pas ce qui se vend le plus, on va dire, mais ça se vend quand même toujours.
Mais c'est que les iPads ont une plus grande durée de vie que bien des ordinateurs même. Alors, c'est pas une affaire que tu remplaces si souvent que ça. Moi, j'utilise encore quotidiennement des iPads qui ont plusieurs années, qui fonctionnent encore très bien. Puis la batterie est tellement grosse par rapport à la grosseur du iPad que ça dure très, très longtemps. Puis on s'aperçoit pas que ça finit par manquer de batterie là, parce qu'on est généralement pas contraint par une taille de batterie ou une batterie qui vide trop rapidement. Là.
Ouais. Ouais, c'est sûr que ça
dure. Il y a une bonne durée de vie sur les iPads, c'est sûr.
Ouais,
c'est sûr.
Ouais. Donc, on verra bien. Une rumeur qui m'intéresse, moi, c'est qu'on dit qu'il y aurait enfin une application de calculatrice sur l'iPad. Donc, je sais pas si vous le saviez tous, mais il n'y a pas de calculatrice officielle. Hein, je veux pas dire que
ça existe pas. Ça a pris iOS 15 ou iPad OS 15 pour avoir la météo, alors.
Ouais, donc bon, enfin, alors est-ce que ce sera une immense calculatrice avec des gros boutons ou alors une calculatrice super sophistiquée, scientifique, qui fait plein de calculs, des graphes, etc.
Ce sera la fin du règne de notre ami James Thompson, de Pécalque.
Ouais, ouais, c'est ça, Pécalque. Mais je pense qu'il a certainement beaucoup de gens qui utilisent son application, qui continueront à utiliser son application.
Oui, moi je l'utilise sur le téléphone, puis il y a une calculatrice sur le téléphone, alors tu sais.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, on suivra ça de près. C'est la semaine prochaine, donc voilà, quand tu reviens, Philippe, on se fera un autre épisode et on discutera un peu des annonces.
Ouais, puis on pourra préparer le WWDC parce que ce genre d'annonce-là, c'est pas. Ils en font à chaque année. Hein. La WWDC va être tellement chargée de choses qu'ils font des pré-annonces. Pour ne pas... parce qu'imagine, s'il aurait très bien pu décider d'attendre un mois de plus puis annoncer les iPads à la WWDC, mais il y a sûrement tellement de choses qui vont annoncer à la WWDC. Ça me surprendrait pas qu'il y ait d'autres petites annonces entre le 7 mai et le 10 juin où la WWDC va commencer. Juste pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'en parler à la WWDC de ces trucs-là. Là. C'est un modus operandi qui a été utilisé dans les dernières années souvent.
Ouais, je me souviens plus dans les années passées si ils commençaient à dévoiler la prochaine version d'iPadOS / iOS.
La nouvelle version d'iPad, c'est jamais la nouvelle version du système d'exploitation, mais des fois, c'est souvent des annonces de hardware.
Ouais,
okay. Comme des AirPods ou des choses comme ça, là, tu sais.
Ouais, ouais. Donc voilà, il y aura certainement des choses, peut-être qu'il y aura des surprises. Je voulais parler d'un truc rapidement parce que j'ai vu la news passer aujourd'hui, c'est au sujet d'Apple CarPlay. C'était il y a déjà 2 ans, je pense. Ils ont fait cette démo à la fin de la WWDC, je pense, d'Apple CarPlay, qui arriverait sur une voiture. Je ne me souviens plus s'il y avait des marques qui avaient été présentées à ce moment-là.
Ah oh oui, c'était des marques possible que... du style Porsche et Jaguar ou des choses comme ça.
Ouais, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'en ai parlé au dernier épisode que Apple CarPlay ne ferait pas uniquement les médias et les cartes GPS, mais ferait aussi l'instrumentation donc devant le conducteur avec la vitesse, consommation, toutes ces choses-là.
Avec un très grand écran qui fait toute la largeur de la voiture, par exemple. Ouais.
C'est ça. Et j'ai commencé à avoir des nouvelles cette semaine qui commencent à dire que je crois que GM se retire de la collaboration avec Apple sur Apple CarPlay. Donc,
Mais ils ne se sont pas déjà retirés de CarPlay en général en disant « on va faire notre propre système ».
Ouais, donc je pense
que ça c'est Jérôme Moteur justement parce que Ford au contraire ont décidé qu'ils ont annoncé nous on continue avec CarPlay, on adore CarPlay, si vous utilisez un téléphone Android auto ou CarPlay, venez chez nous pour acheter vos voitures.
C'est ça. Donc il y a un petit peu deux approches. Ouais, il y a celle dont tu dis, c'est bon, fait plaisir au client, le client veut avoir CarPlay avec son iPhone, donc on vous donne CarPlay. Et je pense qu'il y a le côté GM en disant et opportunité de générer du revenu additionnel et puis d'avoir des abonnements. Voilà, ben, acheter l'abonnement GM machin dashboard truc et ça vous coûte tant par mois et vous avez accès à plein de bidules. Ouais. Je pense qu'ils essayent de faire ça, de retirer un peu d'argent, mais est-ce que ça jouera contre eux, surtout pour les clients qui disent bah, « mon CarPlay, il est où, là ?» Je veux voir ce qu'il y a dans mon iPhone. Donc, je sais pas. D'après ce que j'ai lu, là, j'ai lu un article qui avait l'air de dire que voilà, c'était difficile de travailler avec Apple. Et puis, Apple disait que c'était difficile de travailler avec GM.
Ouais.
Donc, les gens de GM disant bah, « nous, on s'y connaît en automobile. Tu sais, on a des choses à vous dire. » Et puis, Apple disait « non, non, ce qu'on fait, c'est très bien. Acceptez notre design. » Donc, je sais pas où ça va mener. Est-ce que ça va être les restes du projet Titan, donc le fameux projet de voiture électrique d'Apple qui a été, on pense, mis au rancard, là. C'est officiellement officieux, là, mais je pense que toute l'équipe qui travaillait dessus est partie ailleurs. Est-ce que c'est les restes, ça, le Apple CarPlay qu'on nous a montré ou pas? Je pense qu'on n'en parlera pas le 7 mai, c'est sûr, mais WWDC... S'ils en parlent, c'est qu'il se passe quelque chose. Et s'ils n'en parlent pas, c'est qu'à mon avis, c'est enterré. Quoi. Oui. Donc, on verra à ce moment-là. Parlant WWDC, Philippe, tu nous as dégoté un site qui permet un peu de s'y retrouver dans cette masse d'informations. Hein, donc, comme vous savez, à chaque WWDC, il y a des centaines de sessions. Au fil des années, et puis on s'y retrouve plus trop, j'imagine, ou si on veut un petit peu avoir la liste de ce qui a été abordé pendant toutes ces années, où est-ce qu'on pourrait aller?
Mais c'est un site de l'Union européenne, c'est nonstrict.eu, WWDC Index, et ça va vous donner un index, un peu comme une table des matières, si vous voulez, pour chacune des WWDC depuis 2000. Il y en avait avant des WWDC, mais on a très peu d'informations à ce niveau-là parce que c'était souvent des documents qui n'étaient pas en ligne. On vous envoyait des DVD et puis il n'y avait pas de... Il fallait prendre des notes sur place, des choses comme ça, alors qu'à partir de 2000, on commence à avoir des trucs un peu plus en ligne. Là. Moi, la première où je suis allé, je crois que c'est en 2002, alors j'ai un bon souvenir de cette WWDC, mais tu vois, c'est pas tout à fait complet parce que ils parlent pas du keynote dans lequel, en 2002, dans lequel ils avaient littéralement enterré macOS 9. Il y avait un cercueil et tout, là, c'était vraiment quelque chose de spécial de voir ça de proche. C'est le moment où j'étais le plus proche physiquement de Steve Jobs parce que j'étais sur le côté de la scène et puis j'avais directement dans le champ de distorsion de la réalité de Steve Jobs. Là. Puis je disais, oui, il faut absolument enlever macOS 9, puis finalement c'était pas. je trouve que cet index-là est bien parce que ça permet d'essayer de documenter tous les grands jalons qui ont été posés par ces WWDC, parce qu'à chaque année, on dit « Ah oui, il y a des nouveaux trucs, il y a des nouveaux trucs. » Puis c'est sûr que les plus récents, depuis, disons, 2016, on a des choses, les vidéos sont en ligne, on a l'application Developer qui n'est pas parfaite, mais qui quand même est un bon endroit centralisé pour avoir accès à toutes ces vidéos, toutes ces technologies. Et puis c'est vrai que tout se déplace tellement vite que si vous avez une WWDC avant 2016, la probabilité que vous ayez besoin d'informations qui est présentée dans cette WWDC est faible parce qu'ils tendent à répéter les informations principales et puis des choses comme ça pour les nouveaux développeurs. Là. C'est plus pour la nostalgie et la recherche, mais je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir cet index qui est... et on peut avoir le code source de l'index aussi, donc on peut potentiellement participer. Je pourrais potentiellement écrire un petit texte sur cette keynote qui semble manquante pour le moment. Mais je trouvais que ça valait la peine de le mentionner en préparation peut-être pour la WWDC 2024.
Donc voilà, de 2000 jusqu'à 2023, bientôt 2024, sera ajouté à la liste. 3415 sessions quand même, donc ouais. Voilà, il s'en dit des trucs. Et c'est marrant de regarder au début, là, introduction de Cocoa, de Aqua, toutes ces choses-là. En 2001, on parle encore de WebObjects, ouais. Du serveur macOS 10. Donc, trip down memory lane, comme on dit, là, de revoir les vieilles sessions d'époque, c'est assez intéressant. Et voir comment l'environnement et la plateforme a évolué depuis ce temps-là, c'est sympa. Donc les vidéos sont pas sur ce site, donc comme tu le disais, je pense qu'il y a toutes les vidéos n'y seront pas à l'époque, hein, c'était pas enregistré je pense du tout, ou
ça l'était, c'était uniquement sous forme de DVD. J'en avais quelques-uns dans une de mes anciennes jobs, mais c'est des DVD, alors la définition n'est pas extraordinaire non plus. Là. C'est plus pour... Ouais. Si vous avez des exemples de code à l'écran, là, vous ne pouvez pas vraiment lire qu'est-ce qui se passe.
Ça ne doit pas être terrible. Ouais. La définition est assez basse. Ouais. Et puis, c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est quasiment disponible instantanément, gratuit pour le grand public.
Les DVD, ça prenait mois et ça coûtait un autre...
Ça coûtait de l'argent.
Quelque chose comme ça pour
c'est, les ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est une autre époque. Là. Maintenant... on peut pas trop se plaindre parce que voilà, on n'a plus vraiment.
Il fallait payer $129 pour avoir la nouvelle version de macOS. Alors, tu sais.
Ouais, ouais. C'était un autre temps. Donc voilà, si vous allez sur nonstrict.eu, nonstrict.eu, / WWDC index, INDEX. Voilà, vous trouverez cette liste intéressante. Je retrouve ma liste de sujets, je me suis perdu. Voilà, avant qu'on aborde le reste de nos sujets dans cet épisode, je voulais juste raconter un petit peu une petite histoire. Là, ça fait des mois, voire des années que je voulais faire quelque chose et puis je le repoussais toujours un peu plus tard en disant « Ah, je le ferai plus tard ». Et puis bon, je ne sais pas ce que il m'a pris la semaine dernière, une petite partie du week-end, je me suis dit « Ok, allez, on va s'y mettre, il faut le faire, il faut arracher le sparadrap là où ça fait mal ». Alors, de quoi s'agit-il? Bon, bah, c'est un peu faire le ménage dans mon organisation iCloud. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, j'avais une adresse Gmail, Google, que j'utilisais pour mon compte iCloud, et c'était un peu le compte famille, on va dire. Hein, j'avais créé un compte famille au début. Puis voilà, j'avais commencé à faire tout ce qui est Apple, iCloud avec mon compte, l'Apple ID était lié à ce compte Gmail. Et puis j'avais depuis un certain temps mon propre compte Gmail, un autre compte avec un autre courriel, avec mon prénom et mon nom, etc. Donc c'était un peu plus logique. J'avais mon compte iCloud complètement indépendant avec mes choses à moi et tout ça, mes 5 gigas on va dire. Mais depuis, j'ai donc formé ma famille iCloud avec ma femme et mes enfants, mais toujours avec ce compte famille, pas mon compte personnel à moi, le compte famille. Et puis je me suis dit, ah, c'est pas trop logique là, pourquoi avoir une espèce de compte famille qui est à la fois pour la famille, puis à la fois pour moi, on va dire, pour faire pas mal de choses, pour acheter des applications, pour partager les calendriers, partager des notes, des rappels, etc., etc. Donc, je me suis dit, ça y est, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le compte famille, parce que une fois que la famille est créée, briser la famille pour essayer de la remettre avec ma femme, mes enfants et moi-même, en enlevant le compte famille, ça aurait été un peu compliqué. Donc, je garde quand même mon compte famille comme le compte principal, on va dire, qui est l'organisateur de la famille, puis je pense que c'est logique quelque part. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter moi, en tant que membre de la famille. Voilà, donc je crois qu'on a le droit à 5 ouais. comptes. Hein. Donc ça y est, il y a le compte famille, ma femme, mes deux enfants, puis maintenant moi, ça y est, on a tout rempli. Mais bon, voilà, au moins c'est un peu plus propre, on va dire. Je suis considéré comme un membre de la famille. Je ne suis plus vraiment le comte qui gère tout et qui dirige tout, là, qui peut ajouter ou enlever des choses. Je suis devenu un membre. Mais bon, quand on fait ça, c'est pas que ça, c'est vraiment compliqué, mais il faut un petit peu séparer ce qu'il y avait avec le compte famille, puis le mettre avec mon compte personnel à moi, qui lui avait déjà des trucs un petit peu à droite à gauche. Donc j'avais quelques contacts dans mon compte iCloud, quelques entrées de calendrier, etc. Donc la même chose côté famille. Donc déjà, il a fallu que je rééquilibre. Et Philippe, j'ai pas fini. L'invitation que je t'envoie pour les enregistrements est toujours envoyée par le compte famille. Donc je vais supprimer ça et puis le réenvoyer à partir de mon compte à moi.
Ah, c'est pour ça que j'ai deux invitations.
Bah, c'est ça. Et tout, il y a pas mal de choses en double. Alors déjà, c'était un petit peu le bazar. J'en ai profité aussi pour... Ce que j'avais fait, c'est que j'avais toutes mes photos... iPhoto, entre guillemets, ça n'existe plus, mais mes photos dans l'application photo d'Apple,
oh oui,
liées à mon compte personnel. Et donc, je me suis dit, comme on a un compte iCloud famille, que j'ai pris iCloud Plus pour avoir plus de stockage, donc 2 teraoctets, parce que pour que tout le monde puisse faire ses backups iCloud, etc., malheureusement, on ne peut pas vraiment aller en dessous de 2 teraoctets, là, si on est 4. Donc, j'ai passé peut-être 2-3 jours à envoyer toutes mes photos dans iCloud, comme ça je vais pouvoir les partager avec le reste de la famille, ça sera un peu plus pratique, alors que jusqu'à maintenant ces photos, elles étaient sur mon compte personnel, sur mon Mac. C'est un peu plus compliqué que ça, j'ai un Synology, donc il y a une application qui fait photos sur le Synology, donc toutes mes photos sont un peu copiées là-bas et je pouvais les partager.
Tu voulais pas le faire.
Voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, bon, il a fallu que je me réinvite un peu au calendrier de la famille aussi, parce que c'était le compte famille qui avait accès au calendrier de ma femme et des enfants. Donc, il a fallu que j'envoie des invitations à tout le monde pour dire moi aussi, je voudrais voir vos calendriers. Donc, c'est quand même pas mal de travail. J'ai presque fini, mais j'ai quelques petites choses. Je pense qu'il me reste quelques tâches par-ci, par-là ou des choses à faire. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans mon Mac personnel, j'avais le compte iCloud famille et j'avais mon compte Gmail qui est relié à donc mon compte personnel, hein, mon prénom et mon nom de famille à gmail.com. Et pareil, si on ne fait pas attention, ben, j'avais des contacts qui étaient dans le compte iCloud et j'avais des contacts qui étaient dans Gmail, dans Google, chez Google. Quoi. Et j'ai dit, oh là là, c'est devenu un peu n'importe quoi parce que tu fais pas vraiment attention quand tu ajoutes un contact ou etc. Bah tu sais, tu fais pas trop attention où il va, donc il allait au mauvais endroit. Voilà, un peu pareil avec les courriels, un peu pareil avec tout. Et une autre chose qui était un peu bizarre dernièrement, c'est que ma fiche contact dans mon ordinateur personnel.
Ça, et les messages, c'est les trucs les pires.
C'est ça. Famille, j'avais mes deux courriels, mon courriel famille et le courriel personnel. Et j'ai l'impression que iMessage, encore c'est l'ancien nom, se mélangeait les pinceaux. Des fois, j'apparaissais dans deux fois dans des conversations. Des fois, c'était un compte qui recevait les messages. Des fois, c'était l'autre. Des fois, quand quelqu'un voulait me rajouter, ça ne me rajoutait pas mon compte personnel, ça rajoutait le compte famille. Enfin bref, c'était vraiment bizarre tout ça. Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut vraiment que je nettoie, il faut vraiment que je fasse la distinction entre les deux. Donc, l'iMac qui est dans la cuisine là-haut, c'est devenu l'iMac famille qui est branché à l'iCloud famille et qui a juste le calendrier famille qu'on partage avec tout le reste de la famille. Et puis vraiment, les tâches, les rappels pour la famille, tout ce qui est famille, quoi. Il n'y a rien de personnel là-dessus. Donc, j'ai enlevé mon côté personnel de cet iMac là-haut. Et j'ai fait un peu la même chose sur mon MacBook Pro. J'ai enlevé la connexion au compte famille que j'avais aussi. J'ai dû retélécharger quelques applications parce que hein, quand tu as téléchargé les applications avec un compte iCloud... Ouais. Et que tu veux le mettre à jour plus tard, mais que tu as changé de compte entre les deux,
ouais,
il va te demander de te reconnecter au compte iCloud Famille. Alors, tu sais, je dis non, je ne vais pas ça. Ce que j'ai fait, c'est les quelques applications dans ce cas-là, je les ai supprimées et je les ai rechargées côté personnel, mais comme je suis dans le compte famille iCloud, je repaye pas parce que c'est déjà payé, puis tu partages les applications avec tout le monde dans la famille. Donc c'est en train de rentrer dans l'ordre, c'est en train de marcher mieux, je suis content parce qu'enfin c'est propre, c'est compartimenté, il n'y a plus des trucs un peu partout. C'est juste un peu les croûtes, entre guillemets, les crufts là, au bout, tu sais, au long des années, j'ai commencé d'une certaine façon, il n'y avait pas de compte famille, ça existait peut-être même pas, je crois, dans iCloud. Puis les comptes famille sont apparus, j'ai rajouté des membres sans vraiment me rajouter moi-même en tant que membre, etc. Et c'est là où je me rends compte que voilà, c'est pas propre, c'est pas net, le système fonctionne pas bien, il y a des trucs un peu bizarres, etc. Donc, bon, bah, c'est un exercice, hein, ça te prend, comme tu as pu entendre, ça prend quand même plusieurs jours pour que tout rentre dans l'ordre, les choses soient bien séparés et qu'il n'y ait pas trop de soucis. Donc voilà, c'était intéressant tout ça. Mais enfin, c'est fait, je suis content. Et voilà, la situation est maintenant plus claire. Voilà. Avant, c'était toujours un peu complexe. Voilà, c'était un petit peu l'histoire à faire. Mais bon, si vous planifiez un petit peu, vous faites attention à ce que vous faites, ça fonctionne pas mal. Donc, il y a des fois juste des petits délais dans iCloud. Il y a des choses qui apparaissent pas tout de suite. Là, quand on s'abonne à un calendrier, des fois, le calendrier, il apparaît tout de suite. Puis des fois, ça va prendre 5 minutes pour qu'il apparaisse. Ou des fois, il va falloir relancer l'application calendrier pour que ça apparaisse. Donc, il y a des petites choses comme ça qui sont un peu bizarres. Mais bon, au fin du compte, ça fonctionne pas mal. Donc voilà, c'était un petit peu mon histoire iCloud.
Moi, ma seule histoire iCloud, c'est au niveau de la famille. J'ai une famille un peu comme toi, puis on partageait les achats. Mais éventuellement, on a cessé de partager les achats parce que chacun voulait acheter des affaires de son côté, puis c'était toujours chargé sur ma carte de crédit à moi. Juste avoir une seule carte de crédit pour le compte et mes enfants trouvaient ça ridicule de devoir charger. Puis en plus de ça, ben, tu vois les transactions des autres. Hein. Fait que tu vois qu'est-ce qu'ils ont acheté. Est-ce qu'ils se sont achetés des pocket coins, des choses comme ça. Ou des logiciels qui ont un abonnement, puis des choses, toutes ces choses-là, ça passait tout sur ma carte de crédit. À chaque fois, il fallait que je leur dise, tu me dois 35$ ou des choses comme ça, parce que c'est toujours moi qui paye. On est obligé de l'enlever pour que chacun gère ses propres affaires, parce que c'était trop embêtant. C'est tellement ridicule d'avoir un seul mode de paiement sur une famille. Il n'y a pas un seul autre système qui fonctionne. Alors, en ce moment, on ne peut même pas partager nos achats. Puis on avait une application qu'on utilise pour les recettes, nous, qui s'appelle Paprika, qui est vraiment très bien, Paprika 3, que j'ai acheté sur iPhone et sur iPad et sur Mac. Et puis, ça synchronise super bien, puis tout ça. Puis on l'a partagé, mais là, ils l'ont plus. Il faudrait qu'ils la rachètent sur chacune de leurs affaires pour pouvoir partager nos recettes.
Ouais, donc c'est un peu... J'en suis pas encore là, mais j'avoue que mes enfants, ils achètent pas trop d'applications. Hein. Ils restent dans les réseaux sociaux, les trucs gratuits, entre guillemets. Là, donc, mais de temps en temps, j'ai une petite dépense d'$1.20, des petits bidules.
Quand tu prends un abonnement mais c'est pas des grosses applis. Un studio qui coûte $50 par année, ben
ouais, ça passe. Non, non. Ouais. Non, j'ai pas encore ce souci-là. Donc on verra. À moins que mon fils, il ait deux comptes. Il est peut-être dans la famille, mais il a son propre compte pour faire ses achats. Je pense que,
ben, je dirais que ça, on peut le faire. Fils, donc. Hein,
c'est un peu ça. Alors, peut-être que lui, il va le regretter. Puis un jour, il devra faire encore le ménage de son côté. Mais bon, ouais. Pour l'instant, c'est pas un problème. Mais bon, si ça le devient, je ferai comme toi. Ça n'empêche pas d'avoir toujours la famille, hein, iCloud, mais les achats ne sont plus partagés. On peut juste enlever le partage des achats. Donc, on verra. On verra bien. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ça demande du travail quand même. Hein. Il faut gérer ça. Alors j'ai un dernier petit souci, c'est que ma fille va bientôt avoir 19 ans. Elle a encore 18 ans. Et quand je l'ai ajoutée à la famille, je l'avais mis en tant qu'enfant, tu sais. Ouais. Et ben, elle est toujours... je pense qu'il faut attendre les 19 ans, j'imagine, chez Apple. Là, j'ai pas réussi à le changer. Je dis, bon, je vais dire que tu as 21 ans, je m'en fous, là, je peux changer ta date de naissance. Eh ben non, Apple ne vous laisse pas faire ça. Donc, je l'ai supprimé de la famille, je l'ai remise dans la famille en essayant de changer l'âge, rien à faire. Une fois qu'il y a une date de naissance inscrite dans le dossier, on ne peut pas l'enlever. Donc, je lui ai donné... Elle est majeure, donc il n'y a aucune restriction. Hein. Elle peut acheter, regarder ce qu'elle veut, c'est plus mon problème, là, mais... Et il y a marqué toujours qu'elle est un compte, je sais plus comment ça s'appelle, là, dépendant.
Restreint.
Attends, je vais essayer de trouver ça si avec la doigt assez vite. Ça marque âge 18 ans et je suis gardien, là, je suis parent, on va dire, du. Et il n'y a rien à faire.
Tu as toujours resté son parent, même quand tu vas avoir 30
ans. Ouais, c'est vrai. Et
puis toi, tu vas l'avoir plus, là, aussi.
Mais je ne peux pas changer. Il n'y a pas d'endroit où je lui dis, non, mais je ne veux plus être le parent, là, ça y est. Mais non, rien à faire. Donc, voilà, au mois de juillet, elle aura 19 ans. Donc, je vous tiendrai au courant si automatiquement, iCloud dit, hop, maintenant, c'est une adulte. Ou s'il faut faire quelque chose, je ne sais pas.
Aux États-Unis, c'est 21 ans pour pouvoir voter, alors...
Ouais, oh, j'ai peur de ça, on verra bien. Voilà, mais sinon, ça fonctionne pas mal. Moi, j'avoue que je suis assez satisfait d'iCloud. On utilise le calendrier partagé, mais vraiment tous les jours. Ça, la famille fonctionne sur le calendrier partagé, donc ça marche très bien. On n'a pas de soucis, donc bon, pourvu que ça dure. Il y avait eu des soucis avec iCloud dans le passé, mais ça a été pas mal arrangé, puis ça fonctionne pas mal. Alors, parlant de cloud, on va changer de sujet quand même, on ne va pas passer tout l'épisode à raconter ma vie. Si vous voulez utiliser CloudKit, j'imagine que iCloud utilise énormément CloudKit, c'est eux, ça a été créé, je pense, pour ça à l'origine. C'est pas si simple apparemment, hein. J'avoue que j'ai pas encore développé quelque chose avec CloudKit, donc je sais qu'il y a des types de données, il y a des structures CK, CloudKit, etc., qu'on doit transférer d'un appareil au cloud et vice-versa. Mais Philippe, tu nous as trouvé un nouveau kit qui est originaire de Guy Rambeau.
Oui.
Guillerme Rambeau, on parle de lui souvent. Oui, parce que
il fait des choses intéressantes.
Il développe des trucs et c'est lui qui arrive toujours à fouiller dans les SDK puis à trouver des informations un petit peu en primeur. Là. Il trouve, oh tiens, il y a une nouvelle chaîne de caractères, un nouveau type qui a l'air de dire qu'un nouveau iPhone va sortir. Bon, enfin bref, il trouve ce genre de trucs. Mais là, il a développé un framework qui s'appelle CloudKit Codable. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce framework?
Bon, alors, vous connaissez sûrement Codable, qui est simplement de dire que votre classe ou votre structure peut être représentée sous forme de JSON. Donc, c'est facile de pouvoir l'envoyer dans un API ou l'enregistrer sur disque ou des choses comme ça pour bien pour avoir une représentation, disons, en JSON. Alors, ça c'est ce que Codable vous permet de faire. Et de l'autre côté, on a CloudKit qui fonctionne très bien si vous utilisez ce qu'on appelle des CK Records. CK Records, c'est donc l'entité qui est stockée dans CloudKit. Alors, dans un CK Record, pensez que c'est un struct dans lequel vous mettez des différentes données de type entier, chaîne de caractères, données brutes, etc. Là. Bon, c'est la même chose qu'une structure, mais ça s'appelle un CK Record. Et alors, ce que CloudKit Codable fait, c'est qu'il fait le pont entre les deux. Donc, votre structure, elle est Codable. Et puis, d'un côté, c'est sûr que vous pouvez, puisqu'elle est codable, vous pouvez utiliser JSON Encoder, JSON Encoder pour l'encoder et la décoder. Ça va vous donner une structure data que vous pouvez mettre directement dans un CK record. Mais si vous pouvez vous passer par-dessus toute cette étape-là et juste carrément de passer de votre structure codable à un CK record et vice-versa, c'est beaucoup plus simple, ça simplifie votre code, ça simplifie vos tests unitaires et puis ça vous permet d'utiliser CloudKit de la façon la plus swift possible, si je peux le dire ainsi. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil si vous avez un intérêt pour CloudKit pour stocker vos données ou parce que dans CloudKit c'est quand même très très vaste, là on peut stocker des données spécifiques à l'utilisateur mais aussi des données qui sont partagées entre les utilisateurs qui sont mises en commun pour les différents utilisateurs de votre application là. Ça peut valoir la peine de penser à CloudKit. C'est sûr que si vous êtes en Swift UI et vous êtes sur iOS 17 ou plus, vous pouvez penser à Swift Data qui fait aussi le pont avec CloudKit de façon transparente ou presque. Mais là, on parle de Swift Data, qui est une technologie qui, ma foi, est encore un petit peu en bêta. Là. Comme ça demande iOS 17 minimum, ça se peut que votre application, vous devez encore supporter iOS 16, des choses comme ça. Alors que CloudKit, ça fait longtemps que ça existe. Il y a même une version web de CloudKit, donc pour récupérer et même enregistrer des données. C'est un bon pont, je pense, entre votre code en Swift et vos structures de données et faciliter l'utilisation de CloudKit.
Ouais, puis si je comprends bien, ça gère les métadonnées CloudKit. Donc, il y a une structure qui s'appelle CloudKit System Fields. Et voilà, ça, vous n'avez plus vraiment besoin de le gérer vous-même. Là, ça va être codé, décodé automatiquement pour vous par CloudKit Codable.
Oui.
Voilà, donc jetez un coup d'œil. C'est dans le swiftpackageindex.com. Le fameux site officiel, on va dire.
Oui, dont on a parlé dans un épisode précédent, je pense.
Voilà, qui a été adopté par swift.org. Voilà, si vous jetez un coup d'œil, vous trouverez... soit vous regardez ce Guillermo Rambo et puis vous verrez tout ce qu'il a déjà fait. Sinon, vous allez faire une recherche sur CloudKit Codable. Et vous tomberez dessus la petite documentation avec quelques exemples. Mais voilà, c'est relativement simple. Hein. C'est pas non plus un énorme framework là, mais bon, ça dépanne bien. Une chose de moins à développer vous-même. C'est toujours pratique. Une autre petite trouvaille intéressante, alors cette fois-ci c'est toujours du Swift UI, mais c'est au lieu que ce soit des structures de données, c'est une interface utilisateur, on va dire, qui est intéressant. Donc si vous avez utilisé iOS 17, je sais pas si ça existait avant ou pas.
Je crois que oui. Oui, je pense.
Mais voilà, ces petites animations, par exemple, quand vous mettez votre iPhone en mode silencieux, là, vous avez une petite bulle qui descend du haut de l'écran avec la petite cloche là, qui secoue. Là. Ouais. Voilà, si vous avez envie de faire ce genre d'animation vous-même, je pense que ça s'appelle un Swift SDK, c'est un petit framework aussi qui s'appelle System Notification, vous permet de faire la même chose.
Oui.
Alors, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu de plus près.
Oui,
Philippe.
C'est ça. Alors, vous savez que vous pouvez présenter des notifications. Il y a différents types de notifications sur iOS, que ce soit des notifications push. Par exemple, si vous avez un serveur qui vous envoie des informations puis vous les affichez sous forme de notification, ça c'est une chose. Moi j'ai mon application qui permet de voir la qualité de l'eau, là c'est ce genre de notifications là qui sont envoyées. Vous pouvez aussi envoyer des notifications push locales, donc c'est-à-dire que votre application est active et elle envoie cette notification locale et la notification va apparaître comme une notification normale. Là, vous voyez, généralement, ça glisse du haut de l'écran. C'est assez rectangulaire et ça se retrouve dans le centre des notifications aussi, là, avec vos autres notifications pour les regrouper, etc. Ça, ce sont toutes les notifications standards. C'est quelque chose que vous pouvez déjà faire en Swift UI. C'est quelque chose qui est quand même assez riche pour pouvoir représenter ce genre d'informations qui sous forme de notifications. C'est quelque chose à laquelle l'utilisateur est habitué. Mais des fois, vous ne voulez pas une notification qui prend quand même une bonne partie de l'écran et qui peut sembler être un peu intrusive, si on veut, là, parce que c'est pas délicat. Vous voulez quelque chose qui apparaît et qui disparaît rapidement, qu'on n'a peut-être même pas besoin de faire disparaître en le faisant glisser. Il n'y a pas d'action à prendre, c'est juste comme un élément d'interface d'animation pour présenter l'état de votre téléphone. Pardon, de votre application. System Notification, c'est exactement ça. Ça vous permet de présenter une notification du type système. Donc, comme tu disais si bien, prenez votre téléphone et mettez-le en mode silencieux s'il ne l'est pas, ou mettez-le en mode sonnerie s'il est en mode silencieux. Vous allez voir cette petite animation qui apparaît, qui est une espèce de petit rectangle avec des ellipses au bout qui apparaît, qui fait une petite animation qui disparaît. Là. C'est ça les notifications système. Elles ne se retrouvent pas dans votre centre de notification et elles sont pas. On n'a pas besoin de les gérer de la même façon. C'est sûr que si on peut taper dessus et agir, on peut aussi les faire glisser rapidement pour les faire disparaître. mais c'est un autre style de notification qui est moins, disons, intrusif. Et avec le petit framework de System Notification, vous pouvez tout faire ça en SwiftUI dans votre application et avoir le look du système, si vous voulez, ou votre look particulier, si vous aimez mieux avoir quelque chose d'un petit peu plus gros ou avec vos propres informations.
Voilà, donc c'est sur GitHub, bien sûr. Le compte, c'est Daniel Saidi, S-A-I-D-I. Et je me dis, ce nom m'est familier. On a déjà parlé de lui. Quand on regarde ses projets, je vois par exemple Onboarding Kit. Ah. Et on en a parlé il y a quelques épisodes.
Il y en a qui sont prolifiques.
Ouais. Bah là, je vois ses contributions, là, 5075 contributions l'année passée. C'est quelqu'un voilà, qui développe beaucoup, qui fait pas mal de choses. Donc voilà, on salue Daniel. Il vit à Stockholm, en Suède. Je ne sais pas s'il est francophone ou pas, mais on ne sait jamais. Il fait beaucoup de choses. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur sa page GitHub à Daniel Saidi, donc D-A-N-I-E-L-S-A-I-D-I. Et vous verrez qu'il y a Mocking Kit, Onboarding Kit, SwiftUI Kit, Rich Text Kit, Keyboard Kit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, cette petite dernière nouveauté là d'animation notification, système notification. Et ouais, je pense que c'est tout récent là. Ça a été mis à jour la semaine dernière. Donc voilà. Ouais. C'est tout nouveau, tout beau. Donc ouais, sympathique. Ça peut être pour donner un petit peu un style plus système, plus standardisé à votre application. Des fois, c'est peut-être mieux d'enlever vos anciennes notifications puis de mettre ça à la place. Ça peut être intéressant. Bon, on va passer un peu à notre dernier sujet aujourd'hui. Une application qui est dans le Mac App Store, je pense qu'elle est gratuite.
Oui.
Et ça s'appelle Otter Log Console, oui. O-T-T-E-R, comme une...
Loutre.
Une loutre, hein, c'est ça en français, qui permet donc d'afficher le contenu de votre... log système, c'est ça, de vos messages système.
Ben, c'est-à-dire que ça affiche pas nécessairement celui du système, mais ça affiche aussi, comment je pourrais dire ça, quand vous avez une application qui fait des fichiers de ces fichiers log, là, c'est les fichiers qui contiennent des informations de suivi de votre application, ces fichiers-là peuvent devenir très très gros très rapidement et on peut les ouvrir avec la console. Il y a une application sur votre Mac qui est incluse, qui s'appelle console.app et qui permet de voir ces fichiers log-là et de faire des tris, de faire des filtres et des choses comme ça. Mais elle est un peu rébarbative et pas nécessairement la plus efficace non plus pour faire ce genre de filtre. Le système de OS log, le système de log lui-même est très, très efficace, mais l'application, disons, laisse un peu à désirer. Et c'est ce que trouvait le développeur de Otterlog Console. Il a décidé, je vais en faire une application pour visualiser des fichiers log, alors et je vais la mettre disponible pour tout le monde. Alors, si vous manipulez des fichiers log pour pouvoir les... surtout qui sont généralement des gros fichiers que vous voulez filtrer, passer à travers et avoir quelque chose un peu plus lisible et surtout un peu plus coloré, parce que la console, c'est vraiment, vraiment terne. J'aime beaucoup le look de Otter Log Console avec son historique des différents fichiers que vous avez ouverts, la facilité qu'il a de passer d'un fichier à l'autre et les filtres qui sont faciles à appliquer. Vous pouvez tout faire ça dans la console. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste comme plus simple et plus facile de regarder ça dans Otter Log Console.
Ouais, donc il y a l'air d'avoir un système de filtre plutôt puissant. Là, donc si vous cherchez l'aiguille dans la botte de foin, le message d'erreur qui va vous sauver la mise pour comprendre pourquoi votre application a crashé ou qu'il se passe des choses dans le système, voilà, c'est l'application qui va vraiment vous aider.
Ça s'adresse aux développeurs un peu plus avancés qui souvent travaillent en équipe avec d'autres parce qu'il y a un système qui crée des logs comme ça. Ça ne se crée pas du jour au lendemain, ce genre de truc-là. Là. C'est des besoins qui se développent au fil des années. Ceux parmi nos auditeurs qui programment de façon professionnelle depuis des années ont probablement déjà rencontré ce genre de fichier-là. Mais c'est pas pour les ceux qui sont un peu plus pour qui c'est plus un hobby, c'est peut-être moins important, puis la console est amplement suffisante. Mais dès que vous avez des gros fichiers qui viennent de je ne sais où, là, qui ne sont pas nécessairement générés par vous, avoir un bon outil de traitement, c'est toujours bien apprécié.
Ce que j'aime bien dans l'application, c'est que ça affiche le volume aussi des messages dans votre log en fonction des filtres que vous avez appliqués, en forme de petits graphes. Là, donc,
un petit histogramme
avec des petits pics. Là, et ça peut être toujours intéressant parce que des fois, ben, on cherche qu'est-ce qui a pu se passer pour que votre application fasse quelque chose de particulier ou qu'il y a un ralentissement ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez peut-être voir à une heure précise, à une minute, seconde précise, un pic là, de nombre de messages qui apparaît. Des fois, ça peut être un indice vous disant il y a quelque chose de bizarre. Là. Pourquoi soudainement, de temps en temps, ça met une log qui dit « warning, il s'est passé ça ». Puis d'un coup, vous avez 500 warnings d'un coup. C'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, pour faire de l'investigation de problèmes, de choses qui se corrèlent entre elles. Donc voilà, pourquoi il se passe quelque chose dans une application, bah, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose d'autre ailleurs, dans le système ou sur le réseau, etc. Donc c'est le genre d'outil qui peut être bien pratique là, quand vous devez chercher vraiment des choses dans cette montagne d'informations qui est souvent pas difficile.
Moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est la version 1 et qu'il y a plein de choses qu'il veut faire pour les prochaines versions, incluant voir les logs de votre console en direct, alors, au lieu de juste toujours ouvrir un fichier, et potentiellement supporter d'autres formats de logs qui sont créés par d'autres applications que la console ou que le programme OS Log qui est intégré à votre système. Là. Donc, il y a de l'avenir. Ça vaut la peine de télécharger et de suivre l'évolution du programme.
Voilà. Donc, si vous allez dans le Mac App Store, faites une recherche sur Otter Log Console. Donc, Otter, O-T-T-E-R, Log Console, comme ça s'écrit. Et puis, le développeur ou la compagnie qui développe ça s'appelle Jolly Code, J-O-L-L-Y, espace code, C-O-D-E. Sympa, c'est gratuit pour l'instant. Est-ce que ça le restera? Je sais pas, mais voilà,
je pense que oui, parce que le développeur lui-même a dit je sais pas comment je ferais de l'argent avec ça. Il y a probablement pas beaucoup de monde qui en a besoin. Je préfère le faire pour que les gens s'en servent. Alors, c'est le genre d'attitude qu'on aime encourager à CacaoCast.
Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un peu triste à dire parce qu'on en est un peu arrivé là maintenant. Pour gagner sa vie ou faire de l'argent sur l'App Store, c'est pas facile. Donc, c'est non, pas le genre d'application qui va vous rendre riche, c'est certain.
Non.
Mais je vois qu'il est numéro 10 dans les outils développeurs. Hein, donc, l'application, quand même, a l'air de bien fonctionner.
Le numéro 1, c'est toujours Xcode, hein, c'est ça?
Probablement, oui. Je sais pas si je peux cliquer Top Chart. Ouais, Xcode, Test Flight, Apple Developer, ben BB ouais, Edit.
Ah, Baby.
Mais quand même, il est en bonne compagnie, numéro 10, Otter Log Console, donc pas mal, bravo. Faut le faire quand même d'arriver si haut là. Je vois numéro 17, Boop. On a parlé de Boop dans le passé.
Oui, Boop. Donc, j'utilise quotidiennement Boop, c'est génial.
C'est ça. Donc, jetez un coup d'œil là. Il y a pas mal de choses gratuites en plus là-dedans. Il y a quelques-uns, oui. Éditeur HTML, JSON Preview, enfin bref. Top Charts, je suis bête, c'est dans le Top Free Apps, bien sûr. Voilà pourquoi ça n'est pas payant. Voilà, on a fait un peu le tour de notre émission aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit au début, la semaine prochaine, il y aura des annonces. Donc, voilà, Philippe sera en vacances, mais quand tu reviens, on en parlera, on sera bien content de
et ça sera probablement notre épisode pré-WWDC aussi.
Voilà, ça sera revue des annonces et puis un petit peu revue de ce qui s'annonce à la WWDC en deux lettres IA. Ouais. Ça va être ça, donc préparez-vous. On t'en parlait, Philippe, la dernière fois, du côté un petit peu obscur de l'intelligence artificielle, oui. Mais là, Apple, ça va aller fort, mais on va voir à quelle sauce ils vont tourner ça. J'imagine que Apple est un Apple.
Tout le monde fait ça, là, puis...
Ouais, mais ils vont pas faire ça, peut-être comme tout le monde, là. Peut-être que ce sera un petit peu plus restreint et contrôlé, dans la mesure où, voilà, ils vont peut-être pas vouloir avoir un système qui peut halluciner puis vous dire n'importe quoi. Ouais. Mais bon, peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais bon, si Siri devient un petit peu plus...
Ouais, c'est ça. La barre est pas très très élevée pour Siri, on s'en...
Non, c'est ça. Si elle comprend un petit peu mieux et puis elle peut commencer à associer les choses un peu mieux, parce que là, elle le fait toujours pas bien, elle a du mal des
fois. Honnêtement, j'ai l'impression que, de la même façon qu'on a eu un saut assez extraordinaire entre les puces Intel et les puces Apple Silicon, je pense qu'on va avoir un Siri pré-intelligence artificielle et un Siri post-intelligence artificielle. Et je pense que la différence va être le jour et la nuit de la même façon. Ça a été prouvé par les autres modèles d'intelligence artificielle. Puis oui, il y a le problème des hallucinations, puis du contrôle, puis des choses qui sont censurées, puis des choses comme ça. Mais ça, c'est vrai de tous les assistants électroniques. Là. C'est pas exclusif à Siri, ni à Google Bard, ni à Meta ou des choses comme ça. Là. On a toujours ce problème-là. Mais Siri est tellement en retard par rapport à ce qui se fait dans les autres domaines pour, somme toute, le commun des mortels. Là. Tu sais, tout le monde peut utiliser ChatGPT maintenant. Là. Écoute, ils font des applications comme, par exemple, pas des applications, mais disons des petites boîtes à 200$ comme le Rabbit R1 qui contient une application Android qui essentiellement appelle ChatGPT pour faire ses requêtes, et ils vendent ça comme produit. Tu sais, c'est comme, on en est rendu là.
Ouais, c'est un peu du n'importe quoi. Le Human, on n'en a même pas parlé là, des fameux Human, je sais même plus comment ils s'appellent, PIN,
Human truc. AI PIN.
C'est quoi, $600 et ensuite il faut payer un abonnement mensuel.
Et $28 par mois, ou $24 par mois.
Donc, je pense bonne chance. Et ça marche pas bien. Donc, mais voilà, on est rentré dans cette époque où c'est l'IA dans tout. Alors, la tondeuse à gazon avec l'IA, le rasoir avec l'IA, il va falloir s'y habituer là. Ouais. Enfin bref, ça va être plus ou moins bien fait. Mais je suis curieux, comme j'ai dit, je suis curieux de voir comment Apple va approcher ça.
Ouais.
Donc, ça va être très orienté sur la vie privée, sécurité de la vie privée. Donc, probablement, le modèle va marcher sur l'appareil. Et c'est peut-être pour ça que, comme je disais au début, le M4 pourrait arriver peut-être plus tôt que prévu, parce que ça prend beaucoup de mémoire, les modèles, quand même.
Oui, mais la mémoire, c'est pas la même chose que le processing. Puis, on a déjà le Neural Engine qui fait ce genre de traitement-là sur le... sur les puces de type A quelque chose et même EM. Ouais. Là, fait que,
Oui, ça fait un moment que c'est là, ouais. Mais je pense qu'il y aura peut-être un petit quelque chose en plus. Là. On verra peut-être... parce que les modèles qu'Apple utilisait jusque-là étaient très petits et très, très spécialisés. Hein. Donc, reconnaît un visage dans une photo, c'est vraiment un modèle qui prend
ou est-ce
pas
que c'est
des gigaoctets.
Ou un humain.
Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais après, un modèle qui n'est pas... capable d'avoir une conversation et puis de gérer mes rendez-vous, gérer mon calendrier et tout ça, ça va être quand même différent.
Ouais.
Mais qui sait. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir, mais ça sera peut-être pas la semaine prochaine, c'est peut-être encore une fois un truc qu'ils vont garder pour la WDC, ou alors ils vont commencer à l'aborder la semaine prochaine avec des nouveaux iPads un peu plus smart, qui sait. On verra. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Bon, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur cacaocast.com, voir nos épisodes, un peu comme la WWDC Index. Vous pouvez remonter
jusqu'au
relativement loin au premier épisode ou à notre première WWDC dans Cacaocast. Ça peut être rigolo. Philippe, si on veut savoir si, je sais pas moi, t'as essayé de tondre un mouton, où doit-on aller?
Ça va être sur mastodon.social avec Philippe C.
Et pour suivre le podcast, vous pouvez aller à mastodon.world cacaocast. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On sait à quoi s'en tenir pour les quelques 2-3 semaines qui viennent. Donc on se retrouvera bientôt, j'imagine. Voilà, je te remercie Philippe.
C'est toujours un plaisir Philippe.
On se reparle une prochaine fois.
Salut.
Bye bye.